Radio Primitive.
La radio qui fait grrrr.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Eh ben vas-y, c'est à toi, hein. Alors bonsoir d'abord.
Bonsoir.
Oui, ce soir, alors on avait envie de se faire un petit plaisir et de rejoindre l'actualité. En effet, cette période de frigo vide et mais de rage au ventre quand même. On avait envie de mettre en œuvre des solutions positives. Alors, des solutions positives, évidemment, hein, ne pas reproduire chez vous, comme vous allez pouvoir vous en parler. Et puis, aller mettre en lien avec une actualité assez récente, puisque samedi dernier, c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes et contre les discriminations liées au genre. Et vous savez qu'Alex Grégoire, régulièrement, enfin, de temps en temps, on vous fait entendre des récits de bandits, des récits de braqueurs, des récits de voleurs, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations et quelles sont les trajectoires de ces gens-là. Et donc, ben aujourd'hui, on avait l'occasion de vous parler d'un gang de braqueuses. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, parce que, évidemment, comme tous ces faits divers et toutes ces histoires, on aime bien les monter en épingle et puis les scénariser, hein, évidemment. Hein. Ce gang avait été connu et appelé par la presse le gang des Amazones. Quelle originalité, quelle invention, évidemment. Les Amazones, c'est des guerrières, hein, dans l'Antiquité. Et effectivement, tout avait démarré en 1989, où cinq copines d'enfance, dans la région d'Avignon et Avignon, toutes mères célibataires, hein, avec des enfants évidemment, et bien dans la galère à la fin des années 90, avaient décidé collectivement de s'attaquer là où est le problème, c'est-à-dire là où est l'argent, et d'aller chercher l'argent dans les banques. Et donc, malheureusement, ces cinq mères célibataires, hein, Cathy, Hélène, Laurence, Malika et une autre dont on n'a pas dit le nom puisqu'elle a voulu rester un petit peu en retrait, vont réussir cette série de sept braquages. Alors, ça va pas les rendre riches, hein, elles vont récupérer 330 000 francs, l'équivalent de 50 000 euros. Et évidemment, elles vont tout dépenser en bouffe et en jouets. Et en nourriture pour leurs gosses, évidemment. Arrêtées en 91, elles vont être incarcérées et jugées en 1996. Alors l'histoire se termine bien puisque malgré la courte période d'incarcération qu'elles vont vivre, elles vont être condamnées à 5 ans de prison avec sursis. Et donc ne pas retourner en prison et pouvoir reprendre une vie un peu près normale, mais en gardant dans la tête cette aventure. Alors on va écouter un entretien, une interview que j'ai piqué par-ci par-là de deux d'entre elles, et non seulement ça nous intéresse parce que évidemment, comme on l'a souligné au début, c'est pas banal d'avoir des braqueuses, hein. Souvent évidemment ce type de délinquance, il est extrêmement genré, hein, et extrêmement viril en plus, avec des valeurs qui sont colportées par le grand banditisme, qui sont pas forcément celles qu'on aurait envie de mettre en avant. Mais en plus, au-delà de leur acte avec lequel on peut n'avoir que de la sympathie, leurs motivations qu'elles exposent à l'intérieur de leurs propos sont parfaitement claires. Et en plus, l'épilogue est plutôt joyeux et plutôt sympa. Donc voilà. Je propose qu'on écoute tout ça et puis on reviendra dessus. Hein. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Voilà. En avant la musique, s'il te plaît, Camilla.
Journal de France Inter, 21 septembre 1996.
C'est la loi. Quand on est condamné à des peines qui ne sont pas supérieures à celles purgées en préventive, eh bien on ressort libre du tribunal. C'est le sort qui était réservé à la plupart des braqueuses du gang dit des Amazones. Il s'agit de ces jeunes femmes accusées de 7 attaques à main armée dans la région d'Avignon. Les peines prononcées par la cour d'assises du Vaucluse sont essentiellement des peines de prison avec sursis, Anne Lordanier.
Les jurés ont pris tout leur temps, mais pour 4 des 5 braqueuses, ça valait la peine d'attendre. La détention provisoire couvre les peines infligées, elles sortent libres du tribunal. Et pour Fatia Mahamar, l'organisatrice des hold-up, c'est plus qu'un soulagement.
C'est fini, je souffle, je respire, parce que 5 ans, c'est long. J'étais dehors, mais moralement, c'était comme si j'étais dedans, quoi. C'était pire.
Sa sœur Malika va pouvoir retourner travailler en Australie. Laurence Foucrier va retrouver son fils et Hélène Trinidad, ses 3 enfants.
C'est génial de se retrouver en liberté. On a eu très peur, quoi, mais c'est bon.
Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je préfère partir et aller voir mes petits.
Les jurés ont en fait choisi la réinsertion plutôt que la sanction. L'avocat d'Hélène Trinidad, Maître Billet.
C'est un verdict d'espoir. On a rejeté les très sévères accusations et réquisitions de Monsieur le procureur général pour certaines d'entre 10 années d'emprisonnement. Je constate que les jurés ont suivi la défense et notamment ont considéré que la réinsertion réussie de ces différentes jeunes filles devait être prise en considération.
Avignon, Anne Lordanier, Radio France Vaucluse pour France Inter.
Comment ça a démarré toute cette histoire avant qu'on en arrive à se dire tiens, on va braquer des banques les filles?
Moi au tout début j'avais un emploi, j'avais tout qui allait bien et du jour au lendemain la CAF s'est aperçue qu'elle m'avait trop donné, donc ils m'ont tout coupé. Donc je me suis retrouvée avec quoi, 20 francs par mois de CAF.
Et sans pension alimentaire. Et
sans pension alimentaire, un montant dérisoire quoi.
À l'époque vous aviez combien d'enfants?
3.
Et vous les éleviez seuls?
Seuls. Et à ce moment-là, Cathy m'a fait part qu'elle comptait faire des banques, mais que je n'étais pas incorporée dedans parce que j'avais des enfants et elle ne me voulait pas. Et je me suis presque disputée avec elle. Et au dernier moment, la fille qui devait le faire s'est dégonflée. Et elle est revenue me chercher, quoi. Et je suis partie, j'étais très contente.
Elle voulait aussi rentrer parce qu'elle ne s'en sortait pas avec les enfants. Mais moi, des fois, qui lui ramenais de la maison du lait, des yaourts, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, donc je me suis retrouvée dans cette misère, parce que je peux le dire, hein, moi pareil, je gagnais quasiment rien par mois, enfin pas grand chose, donc on ne s'en sortait pas. On a fait ça parce qu'on ne s'en sortait pas, et on n'avait pas le choix, on n'avait plus d'argent. Hélène avait 3 enfants, l'autre copine, elle avait un petit garçon aussi. Pareil, elle était dans une situation où elle n'avait pas assez de revenus pour s'en sortir, payer tout ce qu'il y a à payer, quoi. Les charges, le loyer.
Vous étiez combien au total?
4.
4 filles?
Oui.
En fait, entre femmes, on est plus solidaires qu'on est. Tant pis pour ces messieurs, mais bon. Et en plus, le truc qui, qui joue en notre faveur, c'est que personne n'aurait imaginé que des femmes soient capables de faire ça, quoi. Et quand on arrive à une situation vraiment de précarité, où on n'a rien, où on n'a qu'une solution pour se débrouiller, c'est ou des banques, ou les stupes, ou le tapin, ben on a choisi les banques. Parce que pour les autres choses, je n'aurais jamais eu de courage d'empoisonner des gens ou d'aller faire le trottoir. Ça, je ne pouvais pas.
Et puis moi, j'ai dit à Hélène, on va prendre des risques, certes, mais on va braquer des banques. Et les banques, à la base, ben, pour moi, ce sont des voleurs. Parce qu'ils travaillent avec notre argent, ils nous prennent des agios, ils nous prennent des commissions, ils nous prennent ceci, ils font ce qu'ils veulent avec notre fric. Donc, dans notre état d'esprit, on faisait pas trop de mal.
Alors, c'est étonnant parce que, en général, quand on interroge des braqueurs, ils disent « Mais jamais on prend des filles avec nous, elles tiendront pas le coup. »
Au contraire. On n'a pas voulu de mecs avec nous.
Parce qu'on a été déçus des bonhommes avant, quoi. On a eu une enfance assez chaotique toutes les deux. On a eu, bon, moi, j'ai eu des compagnons qui n'ont rien assuré du tout. Donc, prendre encore un homme avec nous, non, plus de confiance.
La veille de braquage, on n'a pas trop fait le sommeil, il n'est pas très là. On gamberge, je vais le faire, je ne vais pas le faire. Mais il faut le faire, maintenant c'est trop tard. On a tout préparé, on a la voiture. On a volé la voiture la veille, donc il faut le faire. Et puis j'ai fumé des clopes beaucoup pour avoir une voix assez grave, qu'on pense que je suis un mec. Et effectivement, ça a marché parce que... J'avais une voix hyper grave, quoi. Ça a très bien marché. Après, il faut très peu parler, il faut pas trop en dire aussi. Donc, juste ce qu'il fallait. Que personne ne bouge, c'est un braquage, ouvrez les caisses. Et on s'est vieilli, beaucoup vieilli. Donc, maquillage, outrance, perruque. Bon, après, j'avais piqué les lunettes à ma soeur, mais il n'y avait pas les verres. Mais bon, ça ne se voyait pas. Se faire un peu plus costaud, changer sa démarche. Et puis c'est un petit truc marrant que je vais rajouter, c'est qu'une heure après, moi, pour pas qu'on m'accuse, même pas une heure après, une demi-heure après, je suis allé boire le café au bar en face. Et là, il y avait tous les gens qui disaient, oh là là, le grand mince, il avait l'air hyper nerveux, chapeau, le braquage, les mecs, trois minutes. Le grand mince, c'était moi, quoi. Ils nous ont pris vraiment pour des mecs.
Il y avait du plaisir ?
Oui, il y avait beaucoup de plaisir. Après, je reconnais que ça ne doit pas être facile à entendre pour quelqu'un qui s'est fait braquer, que oui, on a pris du plaisir à le braquer.
Non, je dirais pas ça. Bon, du plaisir. Moi, quand je braquais, surtout que c'est tout à moi qui parlait. Donc, j'avais pas de salive. La gorge était vraiment sèche, la bouche, il fallait que je boive beaucoup d'eau avant et après. Mais malgré que je buvais beaucoup d'eau, c'était toujours sec. C'est la peur aussi, je pense, que quelqu'un... Essaye de...
C'est que quelqu'un cherche à se...
Mais oui, à jouer John Wayne ou quoi, venir sur moi. Ça aurait pu arriver.
Je voyais que j'allais remplir mon caddie, ça me faisait trop plaisir. Tout plein de sous, là, c'est trop bien. Pour faire mes courses, dire à mes enfants, quand on va au champ, eh bien, allez, prenez ce que vous voulez. Je trouve que c'est merveilleux. Je ne peux pas regretter un truc comme ça. Même si je le voulais parce que j'ai fait du mal autour de moi... Ça serait me mentir à moi-même de vous dire le contraire.
T'as un peu une sorte, là.
Merde.
Inspecteur !
Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois vous repartiez à l'assaut des banques ?
Ben parce qu'on avait tout dépensé. Il fallait recommencer. Ben vous savez, quand vous n'avez rien en plus, c'est vrai que l'argent volé, ça ne profite pas, quoi.
Moi, je me souviens, j'invitais beaucoup des amis au restaurant. C'est vrai, hein ? C'est pas que pour nous l'argent.
Au total, vous avez réalisé combien de braquages ?
Je pense qu'on est à 5. 5, oui.
5 banques.
Oui. Ben, c'est là où il y a les sous. Hein. Mais vous savez, il y a un directeur de banque à Comment qu'on avait fait, d'ailleurs, on a fait deux fois celle-là. Il avait dit dans un article, tes filles, on leur a donné bon Dieu sans confession. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a jamais fait de mal à personne. On n'a jamais blessé personne, on n'a jamais tiré, lui a tiré, on n'a jamais. C'est comme on m'a dit un gendarme il n'y a pas longtemps, c'est propre, chapeau. On criait pas, hein, on parlait normalement, gentiment.
Qu'est-ce que vous disiez?
Que personne ne bouge, hein, c'est un dope, c'est un braquage, ouvrez les caisses s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de mal, on veut juste l'argent.
Faites aujourd'hui, Hélène?
Je m'occupe de personnes handicapées, je fais des ménages, je vivote, quoi. Et comme je dis, hein, je me plains pas de ma vie, hein, c'est celle que j'ai choisie, c'est mes choix qui m'ont emmené là où je suis, quoi. Mais c'est pas évident tout le temps. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont là, vous demandez un truc, vous refusez toujours parce que vous pouvez pas, et de toujours dire non, ça fait mal, quoi. Parce que c'est des gosses, ils ont leurs rêves, ils comprennent pas pourquoi. Il n'y a rien de plus terrible que d'être un parent qui sert à rien, quoi. Et ça nous pousse à faire beaucoup de choses.
Cathy.
Aujourd'hui, je suis bénéficiaire du RSA, j'ai 700 euros par mois. Et une fois que j'ai payé mon loyer et mes charges, je veux dire, je peux rien offrir à mes enfants. Et je ne vais pas vous mentir que des fois, ça me traverse l'esprit, même en rigolant avec Hélène autour d'un café, on se dit, si je continue à être dans cette merde, j'ai pas un coup à faire, là. Je vais faire un truc, quoi. Mais le seul truc qui me retient, c'est surtout mes enfants. Parce que de mon autre côté, j'ai peur que ça marche pas. Et j'ai pas envie que mes enfants viennent me voir en prison.
Écarte tes bras! Écarte tes bras! Tourne-toi! Tourne-toi!
Ambiance, hein, après on reprend.
À genoux!
Et oui, ben voilà, c'était pas très long, mais j'ai trouvé que c'est super intéressant d'avoir à la fois cette capacité de recul et cette lucidité. Alors évidemment, ben oui, voilà, hein, ça se termine par à genoux, quoi, parce que la société capitaliste, quand on fait pas de la délinquance en col blanc, évidemment, elle vous l'a fait payer cash, cette insoumission et le fait de pas vouloir vivre à genoux, ne serait-ce que pendant que quelques jours, voire même quelques heures. Pour ceux qui seraient intéressés par cette histoire et qui voudraient aller plus loin, il y a un excellent documentaire de Solveig Anspach sur ces cinq nanas, qui s'appelle « Que personne ne bouge », qui a été réalisé à la fin des années 90, donc qui doit être trouvable par-ci par-là, Solveig Anspach, voilà. On mettra ça peut-être sur le son. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois l'ensemble, hein, quoi, à la fois les motivations, c'est-à-dire il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas envie de vivre la grande vie, il y a juste l'envie de reconquérir sa dignité.
Contrairement aux mecs, d'ailleurs.
En général,
les braqueurs, c'est rare que c'était simplement pour bouffer.
Parfois, le début de la motivation, ça peut être ça, hein, ouais. les parcours de vie. Et puis, il y a le mode opératoire. Hein, on n'est pas dans la technicité la plus absolue, mais on y va. Le recul, la lucidité, et puis on sent quand même que ça a dû être un sacré plaisir sur le moment, parce que elles en parlent pas avec des trémolos dans la voix et avec, on va dire, un phénomène de contrition. Alors, j'ai pas creusé très exactement le procès, hein, puisque semble-t-il, ça a été un moment important qui leur a permis aussi vu leur profil et vu ce qui a dû être défendu. Je ne sais pas ce qu'a plaidé l'avocat, peut-être l'état de nécessité, hein. C'est possible. Alors bon, sur le baratin qui sortait à la fin, il a mis en avant la réinsertion. Alors vous voyez, hein, la réinsertion, c'est quoi? C'est retour à la case pauvreté ou la case galère ou la case prolétaire. Voilà, ça c'est la réinsertion, hein, pour la société, hein, galérer encore et encore. Ça, c'est voilà, c'est ça. Hein. L'épanouissement, on repassera. Peut-être qu'il a plaidé, oui, l'état de nécessité. En tous les cas, visiblement, le procureur général, l'avocat général, puisque c'est un procès d'assises, lui, non, t'es pas là. Ben oui, hein, là, s'attaquer, aller chercher l'argent là où il est, lui, il aime pas, hein, il cherche pas à savoir ce qui se passe derrière. Il est évident que si vous voulez voler de l'argent, il vaut mieux vous acheter un costard-cravate et puis faire ça entre gens de bonne compagnie, hein, ça coûte moins cher. Et puis les sommes et les risques sont, les sommes sont plus importantes et les risques sont nettement moins importants, quoi. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, puisqu'on va vous préparer une petite émission, peut-être pour Noël, de un de nos personnages historiques préférés, Alex Grégor, hein, qui est Alexandre Marius Jacob, l'honnête cambrioleur, comme on l'appelait, lui, avec son équipe de Montanlair, a défrayé la chronique au début du XXe siècle en allant chercher de l'argent dans les bâtiments des bourgeois. Et c'est pareil, hein, il a fortement payé ça, puisqu'il en a passé 20 années au bagne, mais ça reste un personnage trop souvent méconnu, trop peu connu d'ailleurs, et qui représente une part de l'histoire anarchiste, de ce qu'on appelle les illégalistes, hein, ouais. Qui au début du siècle, alors il y avait le groupe de la Panthère des Batignolles, hein, qui avait zut, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, mais qui avait théorisé et plaidé la reprise individuelle. Ça me reviendra peut-être au cours de l'émission. Les déménagements à la cloche de bois, hein, qui seront, et les luttes sur le logement, qui seront la seconde partie de notre émission, parce que là, il y a des trucs qui tombent qui sont affreux, affreux. Et puis l'état de nécessité, puisque vous savez que normalement, dans le code pénal, Il existe la possibilité d'invoquer l'état de nécessité. Alors cet état de nécessité, il avait été en avant par ce qu'on appelait un bon juge dans le début du XXe siècle. Encore une fois, une prolétaire, Louise Berthaud, qui avait volé un pain de 3 kilos pour nourrir ses enfants, avait été relaxée par ce juge en raison de l'état de nécessité. Et puis on avait entendu aussi parler de cette histoire-là il y a quelques années à Lyon, où une dame avait pris de la viande et des jouets pour ses enfants quelques jours avant Noël. Et en première instance, elle avait été relaxée à l'occasion de l'état de nécessité, quoi. Évidemment, c'était passé en appel, hein, parce qu'à Lyon, on n'aime pas ça, hein, la cour d'appel. Ça avait fonctionné également, quoi. Je crois que c'est très important de mettre ça en avant en reprenant justement cette phrase de Jacob qui a dit à son procès « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend ». Et dans les temps qui s'annoncent, qui vont être vraiment de plus en plus durs, ouais, sur tous les plans, c'est-à-dire que on est payé des miettes, hein, et en plus on doit raquer comme des ânes au magasin, il est vraiment temps de se conserver ça en tête, quoi. D'accord, on est pauvre, mais on est digne et on est fier, et d'accord, on se fait exploiter, mais notre droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Et ça, on va en parler juste après, là, parce que au niveau des lois de classe qui sont en train de tomber, mais c'est vraiment ça tombe comme à Gravelotte, quoi, comme dirait ma grand-mère. on aura l'occasion d'en reparler après la pause musicale, s'il te plaît, Camille.
Changer de lit, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suive? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suive? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons, des quais, je les voyais par la fenêtre. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suive? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rime et la tessile, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suit?
Oui, on a retrouvé le nom qu'on cherchait tout à l'heure. C'est évidemment Clément Duval et le groupe de la Panthère des Batignolles, qui avec Riederfeld aussi, qui sont des militants anarchistes adeptes de la reprise individuelle. Et ce brave Clément Duval expliquera au procès pourquoi il a volé, pourquoi il a fabriqué de la fausse monnaie et comment il l'a revendiqué comme un acte politique. Il est en 1850, hein, il sera condamné en 1887 à la perpétuité, hein, au bagne. Il sera donc déporté, envoyé à Cayenne, au bagne, et parce que l'histoire finit bien aussi, il s'évadera en 1901 de ce fichu bagne et terminera sa vie pépère à New York, puisqu'il décédera en 1935.
Waouh !
Belle et longue vie, avec cette parenthèse quand même de l'enfer de Cayenne. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques brochures sur ça, et puis il y a un bouquin qui est sorti aux éditions L'Échappée sur ce groupe de la Panthère des Batignolles, qui était véritablement, alors pas des individualistes, mais véritablement des illégalistes, hein, des en-dehors, comme on appelait ça à l'époque, mais qui n'étaient pas dans une démarche individuelle. Il y avait aussi du partage, puisque à l'époque, évidemment, la répression est terrible avec les lois scélérates, donc les services militaires obligatoires, la conscription, donc des faux papiers, etc. Il y a quand même
oui, parce un que rapport... la clandestinité, ça coûte beaucoup de cher,
ouais.
beaucoup de fric. Hein.
Ouais.
C'est clair.
Ouais, ouais.
Il y a intérêt à avoir un sacré réseau.
Tout à fait. En parlant de réseau, donc on parlait justement de cette terreur de classe qui passe
qui et par l'exploitation. Qui s'exprime ouais. là, au là, niveau du Parlement, c'était aujourd'hui, le 28 novembre, où effectivement il y avait l'étude d'un projet de loi qui tente à criminaliser les locataires en difficulté et puis aussi les squatteurs. Alors, si vous écoutez la presse, on ne parle bien évidemment que des squatteurs. On ne parle pas des gens qui ont du mal à payer leur loyer, ou moins, on en parle beaucoup moins. Ensuite, si on parle des squatteurs, c'est parce que c'est criminalisable. C'est-à-dire que je prends un BFM ou autre chose, d'ailleurs n'importe quoi au niveau de la presse, parler des squatteurs, c'est en termes qui est évident, évidemment, criminalise ces gens-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la situation du logement est catastrophique. Il y a pourtant 3,1 millions de logements libres qui ne sont pas occupés. Ensuite, il y a de temps en temps une affaire. Il y en a eu, je crois, en 2021, d'un propriétaire qui se fait petit propriétaire qui se fait squatter là où il habitait. Mais c'est rare. Je crois qu'en 2021, il y a eu 170 propriétaires en France qui ont dû faire intervenir la préfecture pour récupérer leurs biens. C'est quand même peu quand on sait qu'il y a 700 personnes qui sont mortes dans la rue en 2021.
Il y a eu une vraie préparation idéologique à cette loi puisque depuis quelques mois, on nous sort des affaires effectivement exemplaires. Et en plus, évidemment, tu l'as dit, ce terme de squatteur, il résonne et il sent le punk à chien qui vient et c'est qui ça. Destroy évidemment la baraque la du baraque pauvre du petit pauvre retraité qui lui avait évidemment acheté un appart pour pouvoir avoir une meilleure retraite. Mais je te laisse développer, il faudra casser, voilà, briser ce mythe.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le 115. C'est un numéro de téléphone que vous pouvez faire si vous êtes à la rue.
Si vous avez le temps.
Si vous avez le temps, parce que vraiment, c'est occupé pendant des heures. Et il faut savoir qu'au 115, tenu par des assistants sociaux que je n'attaquerai pas, c'est leur boulot, n'empêche qu'ils peuvent pas faire grand-chose, puisque tous les soirs, il y a 6000 personnes qui ont de fait un refus de logement pour la nuit. Et 6000 personnes, c'est rien quand on sait qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le fait de téléphoner au 115, parce qu'ils savent de toute façon que ça n'aboutira à rien. Donc, alors, sur les 6000 personnes qui se retrouvent à la rue, il y a quand même 10 700 enfants. Bon, c'est tous les soirs. Bon, et parmi ces gens-là, faut savoir que il y en a plusieurs centaines qui, dans l'année, vont mourir. Et pendant ce temps-là, la bourgeoisie qui est au pouvoir, avec la droite et l'extrême droite, sont en train de nous pondre une loi qui vont criminaliser encore plus les squatteurs, mais aussi les locataires qui ont des problèmes d'impayés. Et là, ça veut dire que, d'après le truc qui est proposé, mais c'est pas encore voté, hein, si vous squattez quelque chose et que c'est illégal, vous pouvez être condamné à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. D'accord. Ça, c'est pour les familles sans abri qui occupent un logement vide de tout meuble pour se protéger de la rue. Mais c'est aussi ceux qui ont un bail et qui ne peuvent plus payer. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi prévoit que le bail peut être supprimé. C'est ainsi que quand vous avez plus de bail, eh ben, vous vous retrouvez à la rue, c'est clair. Vous êtes obligé d'être un occupant sans titre. Et vous ne bénéficiez surtout pas de ce qu'on appelle la loi d'hiver, qui permet de ne pas être expulsé pendant tout l'hiver, pour ne pas expulser pendant tout l'hiver, qui est une tolérance, faut-il le dire. Il faut avoir un bail. Mmh. Faut avoir un bail. Hein. Si vous n'avez pas de bail, vous ne risquez pas de bénéficier de cette loi d'hiver qui vous permet d'attendre le printemps au chaud.
On peut dire qu'il y a deux types d'occupations et de gens qui se retrouvent dans des procédures d'expulsion. Il y a d'un côté ceux qui occupent un lieu sans droit ni titre,
Ouais. Alors ça, c'est la définition, on va dire, juridique du squat. C'est assez peu, c'est rare, donc des gens qui rentrent dans un espace et qui n'avaient pas le droit d'y être. Ceux-là, à la limite, ils étaient déjà, on va dire, encadrés par tout un type de loi, tu l'as dit, pas de trêve hivernale, procédure accélérée, référée, etc., etc. Mais ça, c'est pas le problème. Là, le problème des gens qui vont être concernés par la loi, c'est des gens qui vont avoir eu un bail, et qui vont se retrouver en difficulté, voilà. Et qui vont cesser le paiement de leur loyer. Et à partir du moment où ils vont cesser le paiement de leur loyer, éventuellement aller vers divers d'aide, maintenant il y a des nouveaux recours pour le propriétaire pour justement péter le bail, et donc là, enlever toute la protection qu'il pouvait y avoir, la protection juridique, et du coup, la procédure d'expulsion dans laquelle on peut présenter des arguments, expliciter au juge, c'est du civil, hein, donc ouais. C'est des audiences, on a le droit d'y aller soi-même et d'amener ses propres documents pour se représenter. On n'est pas obligé d'avoir un avocat, expliciter ce qui se passe, apporter des propres solutions, un échéancier, etc., et avoir aussi la possibilité d'avoir des informations sur ses droits. Et bien là, que dalle.
Ouais, que dalle, ouais. Alors c'est discuté actuellement au Parlement, et c'est très mal répertorié, c'est répercuté au niveau de la presse, c'est évident. On te parle beaucoup plus pour les criminaliser, les squatteurs, et puis des pauvres propriétaires qui se seraient fait squatter leur appartement principal. C'est incroyable. Il y en a eu peut-être 170 dans une année en 2021, qui d'ailleurs ont toujours retrouvé leur appartement, leur logement, quelques jours après, puisqu'il y a déjà dans la loi une possibilité que le préfet puisse faire intervenir la force publique pour effectivement virer manu militari des squatteurs. Et c'est une procédure qui dure quelques jours. Donc on a eu en quelques jours les propriétaires qui ont été soi-disant lésés retrouvent entre guillemets leurs biens.
Alors, petit plaisir de gourmet, on voit bien que c'est vraiment une loi de Bourges, avec cette petite coloration, on va dire, bien de droite comme il faut, tu l'as dit. Donc, les peines de prison augmentent pour une occupation sans droit ni titre. Hein, donc, double peine, expulsé, bam, en tôle. Par contre, les peines baissent pour un propriétaire qui aurait décidé de soi-même se rendre justice et donc de virer lui-même les locataires. C'est-à-dire qu'on passe de 3 à 1 an de prison avec sursis et 7 500 € d'amende. Donc on est vraiment là sur l'autodéfense. Allez-y, hein, frappez-les, sortez-les. Alors,
c'est incroyable, à la télé à midi, il montrait le symbole de la justice. Où on avait un déséquilibre au départ, avant cette loi, où on avait de fait, comme tu le dis, le propriétaire qui faisait tout de son propre chef, sans passer par la justice, qui risquait beaucoup plus, alors que le squatteur il y avait la balance qui était là. Le journaliste disait que grâce à cette loi, cette justice va être rééquilibrée. Il a prononcé le mot rééquilibrage. C'est incroyable.
C'est vrai qu'on vit dans un pays et dans une société qui protège les squatteurs. C'est effectivement très bien connu. La France est connue pour ça. C'est d'ailleurs liberté, égalité, fraternité, squatter. Hein. On est vraiment sur des gros mythes de Bourges. On est vraiment sur des trucs là, sur la propriété, sur la location et sur le logement. Ouais, ouais. On est vraiment sur un des cœurs de la société.
Alors qu'ils ne font rien pour poser le problème de ces plus de 3 millions de logements qui sont vides.
Hein. Ouais, et puis en plus, il faut quand même rappeler quelques éléments particuliers, parce que là, on sent que derrière le transistor, pour ceux qu'on a encore un, il y a des gens qui disent oh, quand même, vous exagérez. Attends. Bon, déjà, rappeler que le mythe du retraité qui s'achète, hein, c'est vraiment le mythe tous propriétaires, achetant des apparts pour se payer notre retraite. Bon, on peut déjà se demander pourquoi on n'a pas assez de retraite avec son salaire, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un mythe qui est profondément ancré dans la mythologie de la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que le crédit immobilier, c'est un super truc pour les banques. C'est vachement bien, c'est un truc qui est bien gagé, qui est bien organisé, qui est bien bouché, qui roule bien. Et puis, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est-à-dire qu'en France, 5% des gens, 5% des propriétaires possèdent 30% des logements. Et si on passe dans les agglomérations de plus de 350 000 habitants, on est à 4% des propriétaires qui possèdent plus de 50% des logements en parc privé, hein, bien sûr, hein, en parc privé. En parc privé. Donc, vous voyez, la mytho du petit propriétaire qui peut pas payer ses charges parce que le mec a pas réglé ses trucs, faut quand même... Par exemple, hein, ici sur Reims, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, hein, on a deux propriétaires privés qui possèdent à eux seuls 20% du parc locatif privé, Rémois. Hein, donc c'est les Tiennot, hein, donc notaire depuis 15 générations. Donc premier parc locatif privé et la famille Vaïda, hein, donc voilà, hein, ça c'est bon. Après, si vous prenez Tétinger et puis en dessous là, vous avez déjà la moitié du problème du logement qui est réglé. Hein. Bon, alors en plus après, il y a tout un tas d'espaces, hein, qui sont colonisés en ville par les bureaux et les comment dire les magasins. Hein, donc les surfaces commerciales. Donc nous, on est toujours de plus en plus rejetés. Parlons évidemment de la crise et du manque criant de logements sociaux. Alors c'est pas à Reims parce qu'on est particulièrement bien lotis sur ces états, mais rappelons que toujours à peu près 10 à 12% des communes en France ne respectent pas le quota de logement social qu'elles doivent construire, par lequel elles sont astreintes à la loi et qu'elles préfèrent payer des amendes. Et de l'autre côté, rappelons aussi que aujourd'hui, en 20 ans, la part dans le budget du reste à vivre, de l'incompressible du loyer, est passée d'environ 21-23% en 1990 à près de 40%. Et donc, on le voit, il devient de plus en plus impossible de se loger dans les grandes villes, puisque ça devient de plus en plus cher. Et donc, aujourd'hui, les prolétaires, ils sont obligés de faire des choix. C'est-à-dire, est-ce que je mange correctement ? Est-ce que je me chauffe ? Est-ce que je paye mon loyer ? Et justement, quand on est confronté à des difficultés passagères, hein, les travailleurs sociaux nous le disent bien, surtout, monsieur, madame ou monsieur et madame, payez bien votre loyer. Ouais. Parce que après, vous vous retrouvez dans des situations qui sont catastrophiques, quoi. Alors, pour ceux qui ont le bonheur d'habiter dans des logements sociaux, ouais, on a encore quelques protections, hein, au niveau des procédures d'expulsion, on peut encore se défendre. Mais évidemment, pour quelqu'un qui résiderait dans le parc privé, bon ben, c'est vraiment devenu une galère pas possible. Alors il y a l'autre possibilité, hein, s'endetter jusqu'à la gueule en faisant un crédit pour s'acheter un cagibi pour une modique somme, mais bon, voilà. Et ça, c'est vraiment tout à fait le type de loi qui résonnent et qui sont vraiment des conditions de classe.
C'est clairement exprimé. Hein.
Entre ça et la semaine dernière, la loi sur les chômages et sur les chômeurs, qui sont évidemment des feignasses qu'on va inciter à retourner travailler, on est en train quand même de se préparer des jours, mais qui vont être démentiels.
Il risque d'y avoir des fuites en avant. De voir l'assassinat, par exemple, d'un contrôleur des impôts, ça s'explique aussi par ce qui se passe pour un certain nombre de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau des administrations, déjà, si vous n'avez pas les moyens d'avoir un ordinateur et d'avoir tout au niveau informatique pour pouvoir justement gérer votre compte, et il y en a des comptes à gérer, hein, Pôle emploi, la CAF, et puis bien évidemment l'assurance maladie, etc. vous êtes mort, hein, c'est clair, vous êtes mort, vous n'aurez jamais vos droits, vous n'aurez jamais vos droits si vous n'avez pas ces moyens-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'État qui gère tout ça, généralement on nous parle de fraude, fraude sociale. Alors ils ont quand même estimé que les fraudes sociales, c'était un cinquantième, 50 fois moins cher, moins que les fraudes, que la fraude
fiscale.
Hein, 50 fois moins cher. Et pourtant, c'est, à mon avis, ça va bien au-delà, puisque beaucoup de gens ne demandent pas leurs droits. Beaucoup de gens qui ont le droit au RSA, pourtant, ne font pas les démarches, parce qu'effectivement, faire les démarches, c'est un chiant remarquable.
Je crois qu'on parlait de 1%, 1,1% de l'ensemble des allocataires, notamment de la CAF dont tu vas nous parler, qui auraient à un moment ou un autre fraudé. Et on est à plus de 12% de gens qui auraient le droit au RSA, qui ne font pas la demande. Parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est chiant, et il y a des gens qui veulent pas justement avoir affaire à ce genre de
démarche.
J'allais tomber dans la diffamation. Ce genre d'individus que sont la CAF. Donc là, ta balance, tu peux
complètement,
la mettre,
complètement.
Comme il faut.
Complètement. Alors la CAF, c'est le pire, puisque c'est le premier organisme social qui a lancé cette histoire d'algorithme pour repérer au niveau informatique tous les fraudeurs soi-disant. Alors ils ont ce qu'on appelle un algorithme qui donne un score de tous les allocataires. Alors les allocataires, c'est énorme, hein. Je crois qu'il y a 32 millions de personnes qui sont de fait à la CAF, dont 13 millions de foyers. Donc au niveau des foyers, c'est une personne et généralement un enfant au moins. Et des fois une personne ou deux, enfin bon. Voilà, donc il y a 13 millions de foyers. Il y a donc tout un contrôle social à faire, alors que la CAF, bien évidemment, manque de personnel, puisque l'État a fait tout pour justement réduire le nombre de personnes qui bossaient à la CAF. Néanmoins, l'algorithme, eh bien, règle ce problème. C'est-à-dire que finalement, il détermine, par une machine, il détermine ceux qui doivent certainement frauder dans leur coin. C'est incroyable, ça. Et alors, les critères, parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a des gens qui enquêtent aujourd'hui, il y a des journalistes qui enquêtent, essayent de savoir. Ils ont du mal à trouver, ce qu'on sait, d'après ce que j'ai pu lire sur le site La Quadrature du Net, on sait que vous aurez un score assez bon si vous avez un revenu faible, si vous êtes au chômage ou si vous n'avez pas de travail stable. Ensuite, si vous dédiez une part importante de vos revenus pour vous loger, et oui, et puis d'avoir de nombreux contacts avec la CAF, c'est qu'on n'accepte pas trop qu'on prenne contact avec eux, surtout quand on fait des démarches sur place, et aussi par téléphone ou par mail. Donc tout ça, ça vous donne un mauvais score. Là, bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent. Il y a évidemment là où vous habitez, dans le quartier, là où vous habitez, la ville où vous habitez aussi. Il y a aussi le fait de votre nationalité. Ah, si vous n'êtes pas né en France, vous avez une nationalité autre que française, c'est donc un facteur certainement aggravant pour une fraude potentielle. Et alors, ensuite, si vous êtes une femme et si vous élevez seul un ou des enfants, alors là, c'est encore pire. Évidemment, vous pétez le plafond au niveau du score.
Ah ben, alors, c'est ça, l'API, les contrôles sur l'API, allocation parents isolés.
C'est un grand classique. Alors maintenant, tout se fait par informatique. Est-ce qu'il se déplace encore? Oui, il se déplace en prévenant à l'avance. Alors j'ai eu récemment à accompagner une personne, mère célibataire, qui avait un contrôle de la CAF sur place, où elle devait fournir...
Chez elle ou à la CAF?
Chez elle. Où elle devait fournir un certain nombre de documents, entre autres ses fiches de paye, évidemment, sur 2 ans. À les garder quand on est précaire et qu'on a une fiche de paye, quand on a plusieurs fiches de paye par mois, il y a intérêt à les garder précieusement. Ensuite, si elle devait fournir surtout les relevés de compte bancaire, et oui, alors Moi, je me suis dit, je lui ai dit au début, les relevés de compte, il y en a beaucoup de gens comme moi qui ne la reçoivent plus par papier. On n'a plus de preuves. Alors, elle m'a dit, et elle a tout à fait raison, si je vais aller voir ma banque, pour qu'elle me donne, c'est moi aussi je ne reçois plus, mais je voudrais bien qu'elle me les donne, parce que de toute façon, la CAF peut les demander. Et oui, ça j'avais oublié que toutes les administrations dont je vous parlais tout à l'heure communiquent entre elles, c'est-à-dire échangent tous leurs documents, que ça soit les banques, la Pôle emploi, la CAF, l'assurance maladie, tout ce que vous pouvez rencontrer comme institution ou comme banque, etc., communique leurs fichiers entre eux. Et c'est légal. C'est-à-dire que la CAF, coup de téléphone, ou un mail, plutôt, ça se passe par mail, ils demandent pour telle personne son relevé bancaire, ils l'ont automatiquement. Et alors, quand ils épluchent le compte bancaire, c'est comique. C'est-à-dire que si jamais vous avez une rentrée d'argent qui n'est pas du tout prévue, qui n'est pas un salaire, par exemple, 20 euros de mis de côté, etc. Alors là, c'est question sur question.
Voilà, il ne s'agit pas que tu aies un membre de ta famille ou un pote ou une copine qui te fasse un virement. C'est-à-dire, faites tout en fraîche.
Faites tout en fraîche, c'est clair. Ouais,
parce que là, tu es obligé de te justifier. Et tu as intérêt à avoir des bonnes excuses. Parce que ça peut être considéré comme un revenu. Et rentrer donc dans ton calcul de revenus, dans ton calcul de ressources, et donc arriver à un
te faire baisser tes APL, par exemple.
Ou avoir un trop perçu. Et on va jusqu'à, quand même, pour vous dire la perversité du bordel, prendre en compte les revenus, les intérêts des comptes d'épargne, à savoir livret A, pas encore le LEP, le livret d'épargne populaire, mais le livret A, par exemple, qui rentre en compte dans le calcul du...
Alors, RSA. Si vous le cachez, votre livret A, ils peuvent le trouver. Il n'y a aucun problème, là aussi. Il faut comprendre que c'est vraiment à la police d'investigation pour décortiquer la vie des gens.
T'imagines si on faisait ça chez les Bourges, le fric qu'on récupérait. Avec la même puissance et la même caractère invasif, ça serait le trou de la sécu et la dette de l'État, elle te serait réglée en 2-2, ça serait vraiment pas une
Alors, heureusement, il y a des gens qui bossent là-dessus, ils essayent de foutre la merde au niveau, justement, de mettre en cause ces machines c'est vraiment, quand ils interviewent la CAF se cache derrière les machines. C'est pas nous qui avons décidé d'aller chez telle personne, c'est notre machine qui a dit qu'il y avait certainement un problème. En fait, au niveau des fraudes de ce type-là, c'est minable. C'est des indus, généralement. C'est quelqu'un qui a oublié de déclarer quelque chose. Du style, la personne a des enfants, il y en a une qui passe d'un seul coup à 18 ans, et si elle ne le signale pas à la CAF et que la CAF continue à donner des allocations, et ben boum, ça tombe, et alors les indus sont retirés tout de suite. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la personne se retrouve dans la misère sans problème.
Et attends, parce que tu dis l'algorithme, il a des paramètres pour évaluer. Mais en fait, l'algorithme, il signale au service que potentiellement tel ou tel allocataire pourrait frauder parce qu'il cumule un nombre de paramètres suffisant. Nombre de... Tu les as évoqués. Alors, des fois, tu as une décision qui est prise, mais ils se rendent compte qu'ils se sont plantés. Donc, ils sont aussi sur une masse critique. C'est-à-dire que s'ils sucrent ou ils révisent les allocations sociales à 100 personnes et que t'en as que 92 qui leur signalent que bah, ils se sont plantés et que on était dans notre bon droit, et bah, les 8, c'est toujours ça d'économiser. Parce que moi, là, c'est mon cas. Là. Ça fait 6 semaines que j'essaye de régler un problème avec la CAF. Je suis dans mon droit, ils me doivent des sous, voilà, ils m'ont retiré des sous. Ils ont admis le fait qu'ils s'étaient trompés. Là-dessus, tout va bien, on est d'accord. 6 semaines, aujourd'hui, le site de la CAF est en carafe, évidemment, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui soit en train de compter ses ronds et qui soit confronté à d'autres problèmes, tiens, par exemple, comment je vais faire pour payer mon loyer,
ou merde, il faut que je compte mon chômage parce que là, ça se trouve, ça va être réduit d'un tiers, de deux tiers, je sais pas, on est en période rouge, verte, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Qu'est-ce que je vais me faire chier pour aller gratter 10 balles, 10 euros par-ci, 10 euros par mois, quoi. Eh ben, tiens. Ça, c'est cadeau, c'est pour la CAF. Vraiment, on l'a dit, hein, être pauvre, c'est vraiment un vrai boulot qui mobilise vraiment des vraies compétences. Alors que tu m'étonnes que des fois, t'as envie de te réécouter Cathy, Hélène, Laurence et Fatia et Malika et de leur dire, allez, ça suffit la galère, tant qu'à faire, autant galérer pour quelque chose qui vaut le coup.
C'est vrai qu'on peut être étonné qu'il y a si peu finalement de personnes qui se révoltent par rapport à cette situation. Et malheureusement, quand elles le font, c'est d'une manière individuelle et c'est d'une manière qui les criminalise encore plus.
Alors peut-être qu'on n'a pas encore totalement touché le fond. Peut-être qu'il reste encore quelques trucs. Alors c'est aussi une bonne idéologie du système, puisque cette semaine, c'était la collecte pour les banques alimentaires. Alors évidemment, hein, si vous êtes comme moi et que vous crachez à la gueule des gens qui vous tendent des sacs en papier pour les remplir dans les grandes surfaces, bon, c'est un peu c'est un peu violent, mais ils n'arrivent pas trop à réfléchir, hein, puisque aujourd'hui, on le sait, hein, il y aura 3 millions de personnes qui vont avoir recours à l'aide alimentaire. Et en plus, c'est nous qui devons abonder, hein, l'aide alimentaire, puisque c'est vraiment que de la charité, où on vit dans un pays de pauvres.
Et puis c'est les pauvres qui donnent.
C'est les pauvres qui
en
donnent.
En majorité.
Et en plus, cette aide alimentaire, une petite nouveauté par rapport aux années précédentes, elle concerne de plus en plus de jeunes, donc de gens qui ont moins de 25 ans, qui rentrent pas dans les cadres du RSA. Ouais. Donc voilà ce que fait la société avec sa jeunesse. Elle les envoie à l'épicerie sociale et à l'aide alimentaire pour bouffer de la merde achetée par d'autres pauvres dans des méga grandes surfaces qui payent les caissières au lance-pierre et qui évidemment s'engraissent en détruisant la planète. Voilà le joli type de société qu'on va s'offrir pour Noël. Alors, on n'a pas encore touché le fond. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on parlait ici du Liban. Le Liban où les braquages de banques ont augmenté de 400%. Et c'est pas qu'il y ait le Hezbollah qui se soit mis en quête d'une campagne. Non, c'est que ben le 78% de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté internationale, hein, c'est-à-dire moins de 1 euro par jour. Il y a une heure d'électricité générale au Liban et les banques sont en train de se péter la gueule et donc rationnent les retraits de liquidités. Et ben les Libanais, ils ont compris comment ça se passait. Ils vont taper un flingue à un copain ou un cousins, puis ils vont chercher leurs économies. Ça représente en plus de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes mères de famille qui veulent effectivement avoir des liquidités pour pouvoir acheter à manger à leurs enfants. Et c'est un phénomène qui commence à inquiéter fortement les autorités libanaises. Bon, parce que déjà, elles ont absolument plus d'autorité sur la société après les événements de Beyrouth, mais qui semble se diversifier. Et en plus, qui fonctionne pas trop mal puisque bah, les employés du guichet, eux aussi, sont payés comme des merdes. Ils ont pas trop envie de prendre des risques pour que les gens... Et alors, pour le moment, c'est super drôle, c'est que les gens ne retirent que leurs économies.
Que leurs économies, oui.
Non, c'est tout à fait. Là, c'est trop. ils rendent la monnaie, quoi. Donc, bon, voilà. Hein, on rigole, mais ça s'annonce quand même.
Alors, justement, présent. Par rapport au contrôle, il y a une association, un collectif qui s'est créé, le collectif Stop Contrôle, qui a une boîte mail dont je vais vous donner les références. Stop.contrôle avec un S. @protonmail.com. Alors là, ils acceptent tous les récits, toutes les problématiques actuelles face au contrôle de la CAF ou de Pôle emploi. Et c'est ainsi que ça permet aussi peut-être ne pas se limiter à en faire un bouquin. Ça, il y a des bouquins là-dessus maintenant. Mais de faire en sorte que collectivement, enfin, on puisse se battre par rapport à ces contrôles de merde.
C'est ça. Surtout, ne restez pas seul, même pour les trucs de logement. Si jamais, par hasard, vous connaîtriez quelqu'un ou vous êtes en galère, n'hésitez pas à écrire à l'Égrégore. On n'a pas de baguette magique, mais c'est sûr que... à plusieurs, déjà, on peut réagir. Et bon, il y a certains d'entre nous qui savent très bien se débrouiller et qui connaissent encore un peu leurs droits. Donc, ne reste pas seul. Ça, c'est sûr que, en plus de l'angoisse que tu vas avoir, c'est pas sûr que tu puisses te débrouiller. Voilà. Ah.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.